Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci de nous suivre sur Canal Académie pour cette émission Éclairage qui veut se pencher sur les questions de l'éthique dans la sphère publique. L'État, sous toutes ses formes et même avec quelques tentations tentaculaires, si l'on peut dire, peuvent-ils respecter l'homme pour qu'il ne disparaisse pas, submergé par une technicité qu'il dépasse ? On parlera évidemment avec le grand rabbin Haïm Korsia, puisqu'il est l'auteur d'un livre pas très gros mais très bien résumé qui s'appelle « Éthique et action publique », préfacé par Bernard Debré. C'est un livre qui a été publié aux éditions ISMAP. Bonjour Haïm Korsia.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est ISMAP ? Racontez-nous en quelques mots.
C'est l'Institut supérieur du management public et politique. C'est une école formidable qui recrute sur la base des banques, enfin, on appelle comme ça. Ils ont du flux des élèves qui font l'ENS Lyon en particulier, mais donc des gens qui ont fait Cagnes, Hippocagnes, et qui se destinent à accompagner les décisions des décideurs publics et politiques, mais également dans la sphère privée de l'entreprise. Dans les entreprises qui ont des services justement qui travaillent avec la sphère publique et politique. On en retrouve dans certaines ONG, dans des conseils généraux, régionaux, auprès de maires, auprès de députés, dans des cabinets ministériels. Et c'est des gens qui vont assumer la responsabilité de décisions, de micro-décisions et de grandes décisions, et qui sont formés de manière extraordinaire dans une école qui se trouve à Paris et qui a une antenne à Bruxelles, où j'ai la charge d'une chaire d'éthique. Et c'est très émouvant parce que ces élèves, au début de leur scolarité, m'accompagnent sur la base du volontariat. Donc, en gros, la moitié d'une promo vient. M'accompagnent dans un voyage à Auschwitz. Et notre idée, c'est de dire, voilà à quoi de micro-décisions peuvent amener si on n'y prête pas garde. Ce que Hannah Arendt avait appelé la banalité du mal. C'est-à-dire que pour que des trains arrivent, il faut des gens qui décident que les aiguillages soient bien mis. Il faut des gens qui amènent les locomotives, d'autres qui amènent les wagons. En soi, c'est pas un acte extraordinairement grave. Mais c'est la somme de tous ces micro-actes qui, à un moment, aboutit à quelque chose. Et il y a une part de responsabilité immense. Je vous dis, Hannah Arendt est une des bases de réflexion forte, tout comme Hans Jonas, sur le fait que la modernité dilue le sentiment de responsabilité. Et, disons, dans ce cours, à un moment, j'ai voulu mettre quelques idées. Voilà pourquoi c'est un petit opuscule édité dans la collection de l'école, de la chaire de la gouvernance publique. J'ai voulu mettre quelques idées à plat dans certains domaines, mais qui sont extrapolables à peu près tous les domaines d'activité.
Eh bien, on va les détailler un tout petit peu, parce que justement, l'éthique, elle joue un rôle important dans de nombreuses sphères de notre vie quotidienne. Est-ce qu'il y a une différence entre l'éthique et la morale ?
Bon, c'est l'origine étymologique du terme. On pourrait dire que c'est la même chose, parce que finalement, l'un vient du grec, l'autre du latin. Mais je crois que dans le sentiment diffus des gens, la morale, c'est quelque chose de beaucoup plus global. La morale de la société, l'acte que tu fais est moral ou pas, donc c'est défini par rapport à des référents extérieurs. L'éthique est personnelle. C'est Gilles de Lipovski qui dit cette phrase extraordinaire, l'éthique c'est un individualisme responsable. C'est-à-dire que je ne peux pas faire quelque chose qu'on fait très souvent maintenant. Le monde de l'entreprise vit avec une sorte de miroir aux alouettes extraordinaire, on va externaliser. On veut tout externaliser. Une entreprise va externaliser la nourriture. Elle demande à une autre société de venir nourrir les gens alors qu'avant il y avait le cuistot qui était là et qui nourrissait tous les gens. On externalise la sécurité, on externalise le service informatique, on externalise les DRH, maintenant on veut externaliser le service paye, on veut tout externaliser. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est. Certains ont voulu externaliser l'éthique en disant, c'est pas moi qui suis responsable. Il y a un gouvernement, il y a la police, il y a l'État, il y a des structures qui assument cette responsabilité. Mais en réalité, on ne se rend pas compte à quel point chacun de nos actes individuels incarne cette responsabilité personnelle qu'on a. Voilà pourquoi je dirais que l'éthique, à mon sens, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus personnel. On verra, par exemple, sur l'éthique de l'entreprise, quand on en parlera. Je ne crois pas à l'éthique de l'entreprise. Je crois à l'éthique de l'entrepreneur. Oui, mais ça renvoie toujours à la personnalité.
Donc vous plaidez pour qu'on ne baisse pas les bras devant la responsabilité,
exactement,
notre responsabilité,
exactement,
individuelle. Mmh. Vous avez, dans ce petit livre de 71 pages, comme vous dites, il n'est pas très épais, abordé quelques thèmes. Éthique et vie privée, éthique santé et vie, éthique des affaires, éthique de la presse et éthique des forces armées. Car j'aurais dû, en vous présentant, rappeler tout de même que vous êtes l'aumônier général israélite de l'armée, de l'air et des armées françaises. Donc vous avez justement là quelque chose à dire sur les forces armées. Éthique et vie privée. Pourquoi la vie privée serait-elle menacée? Pourquoi y a-t-il besoin d'une éthique dans la vie privée?
Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point cette obsession de la transparence, notamment avec l'apparition de l'informatique et d'Internet, fait que tout le monde peut tout voir ou voir beaucoup sur les autres sans qu'on y prête garde. Alors, bien sûr, les gens disent, mais moi, ça ne me gêne pas qu'on sache. Oui, mais le principe n'est pas que ça ne me gêne pas ou que ça me gêne qu'on sache. Le principe, c'est à quel point on a un manque de respect de l'intimité de l'autre, considérant que je dois tout savoir de l'autre et que je dois tout faire pour protéger mon intimité. Mais la Bible nous a appris, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et le judaïsme l'a toujours traduit en disant, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Autrement dit, la même force que je vais déployer pour protéger mon intimité, il faut que je la déploie pour protéger l'intimité des autres. Ça va très loin finalement. C'est une forme de presse, une forme de recherche de ce que vivent les autres. À un moment, on doit être capable de dire non. Je refuse de voir ça, je refuse même d'être complice en lisant un journal qui va se livrer. Alors bien sûr, où est la limite? La limite, elle est définie globalement par la société. Mais en même temps, je renvoie encore une fois à une responsabilité personnelle.
Mais l'État a-t-il la tentation, par exemple, de nous mettre tous en fiche? Qu'en pensez-vous?
On a, à cause de tous les films, qui abreuvent aussi notre réflexion, là, à peur d'un État Big Brother qui saurait tout, qui voudrait tout savoir. Tous ces films, vous savez, où on peut loger. En général, c'est même pas la CIA, c'est trop simple, la NSA ou un truc compliqué. Suit quelqu'un avec ses déplacements, avec une micro-truc qu'il a dans son téléphone, bref. Oui, techniquement, c'est faisable. Mais moi, j'ai beaucoup plus peur de l'utilisation que ferait une entreprise privée ou des gens, des privés individuels, de tout ce qu'on peut obtenir que l'État. L'État, d'une certaine manière, il n'a pas intérêt à savoir. Il veut savoir pour se protéger, pour protéger les choses. Encore, sa vocation, elle est noble. Mais les entreprises privées individuelles, c'est de l'espionnage, c'est de la surveillance, c'est de la diffamation, c'est monter des dossiers, des choses. Je préfère encore, vous voyez, le Big Brother État. Je vous donne un exemple simple auquel personne ne fait attention. Imaginons, vous avez une carte Navigo, qui est une carte pour tous les transports en commun, dans le métro de Paris, dans toutes les RATP. Et on peut tracer tous vos passages. Donc on se rend compte que vous êtes entré à 13h à Nation et que vous êtes sorti à 18h à République. Il se trouve que ce jour-là, il y avait une manifestation entre Nation et République. On peut donc en extrapoler que vous avez participé à la manifestation. Des gens peuvent considérer que c'est une forme de fichage politique. Et c'est vrai que vous avez le droit de manifester sans que tout le monde sache que vous avez manifesté. Donc ça, c'est un exemple. Je peux vous donner beaucoup d'autres exemples. J'ai lu une étude assez intéressante. Plus d'un tiers des divorces aujourd'hui se base sur des données comme Facebook, comme les SMS, les téléphones. C'est-à-dire une sorte d'intrusion permanente dans ce que fait l'autre. Vous me direz, ils ont qu'à être plus prudents, ils ont qu'à être plus...
Préserver leur vie privée.
Mais en fait, on n'est pas là. On n'est pas là pour fonder un monde de l'hypertransparence qui serait, à mon avis, la négation de l'individualité de chacun.
Alors, dans le domaine de la santé, par exemple, et de la préservation de la vie aussi, oui. Il y a aussi beaucoup de questions éthiques. D'ailleurs, je crois que vous avez fait partie du Comité national consultatif d'éthique. Je ne sais pas si c'est une fonction que l'on prend, qui vous est demandée, que l'on laisse.
C'est des mandats de 4 ans, et au bout de 4 ans, on ne va pas renouveler. Donc
vous n'y êtes plus actuellement. Non. Il y a aussi tout le domaine de la recherche, dans le domaine médical, de la bioéthique. Là, quel est le problème par rapport à l'éthique, justement?
C'est le flou. C'est qu'on a le sentiment que tout ce qui est possible, il faut le faire. Mais c'est dangereux. Parce qu'on se prépare une humanité où il y aura un flou permanent. Je vous prends un exemple simple. D'abord, il y a le flou sémantique. On emploie des mots pour dire d'autres choses. Je vous donne un exemple très... Vous allez voir, c'est étonnant. On prend les mères porteuses. Je vous dis une mère porteuse. Elle vend l'enfant qu'elle va avoir. Ou elle porte un enfant et après elle le vend. Autrement dit, elle va construire l'abandon d'un enfant. Ça plaît à personne, mère porteuse. Comme ça plaît à personne, la formulation, elle était négative. On a dit GPA. GPA, c'est abstrait.
Gestation pour autrui.
GPA, gestation pour autrui. Puis après, on s'est dit, autrui, c'est bien. Qui va être contre l'altruisme? Donc, vous dites, est-ce que vous êtes pour la mère porteuse? Intuitivement, vous dites non.
Non.
Vous dites, est-ce que vous êtes pour la gestation pour autrui?
C'est plus charitable, déjà.
Ben voilà. Et je peux vous donner un autre exemple. Mais en réalité...
On triche avec les mots.
On commence par tricher avec les mots. Et Albert Camus a très justement dit « Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. » Il me semble que dans la logique de sorte de flou qu'on instaure, qu'on risque d'instaurer dans la société, on a une responsabilité. Bien sûr, l'enjeu, c'est toujours celui-ci. Le bien d'une personne pour un risque majeur pour l'ensemble de la société. Oui, il y a des gens, Et c'est dans la Bible, lorsque Rachel supplie Jacob de lui dire « Donne-moi des enfants, sinon je suis morte ». On comprend toute la souffrance d'une mère qui ne peut pas avoir d'enfant. Mais Jacob lui dit « Je ne suis pas l'Éternel. Est-ce que je suis à la place de Dieu ?» Bon, finalement, grâce à Dieu et à la prière, ils vont avoir des enfants. Mais donc, la médecine fait des choses extraordinaires pour aider des familles à avoir des enfants. Mais aller au-delà de l'extraordinaire pour faire ce qui sort de la règle sociale, c'est-à-dire quelque chose qui va faire que quelqu'un pourrait avoir 5 voire 7 parents, déjà avec 2, on doit passer la moitié de sa vie sur des divans de psy pour essayer de rompre le lien. Non mais, vous vous rendez compte, 7 parents, parce qu'il y aurait une mère et un père qu'on appelle d'intention, qui voudraient un enfant, ils pourraient prendre une gamète, ça veut dire des cellules d'un homme et d'autres cellules d'une femme, ça fait 4 déjà, implanter ces cellules dans le ventre d'une cinquième, d'une autre dame, ça fait déjà 5. Imaginons que les parents d'intention qui vont être ses parents divorcent et se remarient, ils ont des beaux-parents, donc l'enfant aura des beaux-parents qui ont des droits maintenant, ça fait 7 déjà. Mais la question, c'est qu'on risque d'instiller dans la société un flou. Et je crois que l'éthique, dans
tous les
domaines...
C'est de mettre un cadre.
Oui, mais un cadre dans lequel on essaie de protéger une sorte de projection dans le futur. C'est-à-dire, on enlève le flou. Et rien n'est pire que le flou, en tout domaine.
Mais il y a aussi la notion de dignité humaine. Alors là, vous étiez dans la naissance, mais il y a aussi les mêmes problèmes à la fin de la vie et à la mort. Mais la notion de dignité humaine, n'est-elle pas floue un peu aussi, justement, ou dépendante, disons, des sociétés ?
Par exemple, il y a une association qui s'est créée, qui s'appelle ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Ils ont pris la dignité comme « vous mourir en pleine santé ». Vous savez, j'ai une mauvaise nouvelle, pour mourir en pleine santé, il faut probablement mourir vers 35 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la dignité ? Comment mesure la dignité ? La dignité humaine, elle est pleine et entière. Du début.
Quel que soit l'humain.
Du début et un peu avant le début, probablement. Jusqu'à la fin et un peu après la fin, puisqu'on respecte encore le corps de quelqu'un qui est mort. Et commencer à rogner la dignité du début de la vie ou à la fin de la vie, comme le font beaucoup, en considérant que la dignité, c'est quand on est en pleine possession de ses capacités. Mais le problème, c'est pas de la personne qui est là, malade, souffrante devant nous. Le problème, c'est nous. Est-ce que ça veut dire que pour parler à quelqu'un, il faut uniquement lui parler avec des mots ? Moi, je connais des gens qui, en une pression sur la main de quelqu'un, ont dit beaucoup plus de choses que des heures et des heures de parlotte et de discussion. Il suffit d'accompagner des malades pour le savoir. Et je sens que la sorte de tricherie assez monstrueuse sur l'utilisation de ce mot « dignité », alors que la véritable dignité, c'est de garder la personne dans notre monde. Cette personne qui est malade, j'ai pas dit la souffrance n'a jamais été valorisée dans aucune religion. Et en France, nous avons une loi formidable qui s'appelle la loi Leonetti, qui a été votée à l'unanimité, qui a vocation à apaiser la souffrance et à ne pas pousser à
un acharnement
thérapeutique qui serait une insulte à la vie humaine. Parce qu'à un moment, voilà, c'est comme ça, on retourne à notre finitude. Notre humanité pleine et entière, c'est aussi la mort. Et donc de ce point de vue-là, il faut accepter notre statut d'humain. Mais de dire, on va maîtriser, y compris nos déficiences morales, jusqu'à quel moment on va mettre cette limite ? Donc je crois que, à la fois ce glissement sémantique est dangereux, mais en même temps, ce qu'il dit derrière de notre société qui ne voudrait que des individus utiles, productifs. C'est-à-dire quoi ? Dès qu'on n'est plus utile, dès qu'on est productif, on n'a plus de dignité, on ne vaut plus rien. Et ben, c'est contre ça que je pense. Il faut rappeler des règles éthiques de vie en société. Et là, effectivement, ça relève plus de la morale. Mais comme je renvoie toujours et encore à la responsabilité individuelle, je m'inquiète de la responsabilité du chercheur qui aurait la tentation de dire « je veux tout faire ce qui est possible » et on lui dit « non, tu dois faire ce qui est bien ». C'est une grande différence.
Il y a aussi une éthique nécessaire dans le monde des affaires. Ça, peut-être, c'est assez évident pour qu'on n'en parle pas trop, ayez besoin peut-être d'en parler un peu.
Pas que j'ai besoin d'en parler. L'arrêté, c'est que c'est un immense mensonge. Parce que l'éthique dans les affaires, en réalité...
Il n'y a pas d'éthique dans les affaires ? C'est un mensonge ?
Oui, c'est un mensonge. Parce que le but d'une entreprise, c'est maximiser les profits.
C'est normal, sinon elle coulerait.
C'est normal. Maintenant, vous me direz, alors simplement, il faut tricher. Les gens trichent. Dans la limite de ce qui leur permet de continuer encore à refaire des affaires. Ça veut dire qu'en réalité, s'il y a une éthique, c'est parce que quelqu'un d'inéthique n'aurait plus d'affaires avec personne. Et donc, il est obligé d'être éthique. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire quoi ? Je fais un constat d'échec, il n'y a pas d'éthique dans les affaires, c'est faux. Évidemment faux. Parce qu'en réalité, il y a une éthique personnelle de l'entrepreneur. Et il y a beaucoup plus de vérité et de profondeur dans l'éthique de l'entrepreneur que dans l'éthique de la société.
C'est personnel, ce n'est pas collectif.
Voilà. Bien sûr, bien sûr. L'entrepreneur, lui, va dire, moi, je préfère traiter avec ce fournisseur, qui est peut-être plus cher, mais je sais comment il est fait. Et je sais qu'il n'a pas lui-même exploité ses propres fournisseurs. Il a une responsabilité sociale, ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociale et environnementale. Bon, on a des agences qui notent. On se méfie beaucoup en ce moment des agences de notation. Mais il y a un véritable engagement du monde de l'entreprise pour faire en sorte que, par exemple, on ne fasse pas des plans sociaux qui soient des plans sociaux uniquement pour faire plaisir à la bourse, qui elle-même fait plaisir à des fonds de pension, qui elle-même ne revendique qu'un retour de 15% sur investissement par an. Donc, à un moment, on doit construire la responsabilité des entrepreneurs comme des gens qui bâtissent la société dans laquelle on est, parce qu'ils donnent du travail.
Par rapport aux exportations, par exemple, et aux importations, ne pas aussi...
Il y a une loi du marché qu'on ne peut pas nier, il y a une mondialisation qu'on ne peut pas nier. Maintenant, cette mondialisation, au lieu d'en être les victimes, on pourrait aussi l'utiliser pour diffuser les produits, diffuser le savoir-faire français, diffuser ce qu'on fait. Ce qu'on arrive à faire en France, par exemple, avec le luxe, avec beaucoup de choses, on arrive à avoir un savoir-faire mondialement reconnu. Bien. On devrait être capable de le faire sur des niches, sur des choses très précises. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de grandes réussites d'entreprises françaises qui deviennent de plus en plus d'ailleurs internationales, c'est-à-dire elles-mêmes mondialisées. Bon, il se trouve que c'est une donnée. On peut le regretter, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. C'est quand quelque chose est, il faut essayer d'utiliser pour le mieux.
Est-ce qu'il y a une éthique aussi individuelle pour les journalistes dans la presse ?
Vous le savez mieux que personne, évidemment. Je crois que c'est une immense responsabilité, cette éthique. Parce que, par exemple, dans un monde qui va très très vite, il faut qu'un journaliste ait le courage de ralentir légèrement pour recouper ses sources, pour vérifier une information, pour ne pas reprendre ce que les autres ont mis en disant « bon, après tout, si je ne le publie pas, je vais être en retard, donc il faut que je fasse comme tout le monde, vérifier les sources ». À savoir qu'une information qu'on donne, elle peut avoir des répercussions terribles. On a vu par exemple, souvenez-vous, d'un de nos ministres de la République accusé de choses horribles et qui a été blanchi absolument. Il n'y avait rien, rien. Alors, bien sûr, la presse, elle a une vraie responsabilité. Elle est ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, c'est-à-dire qu'elle assure aux citoyens que rien ne lui est caché dans les arrière-cours d'un monde qui se voudrait feutré, ouaté, sombre, secret. Mais en même temps, elle a une immense responsabilité. Et encore une fois, c'est la responsabilité du journaliste. Voilà pourquoi le journaliste signe son article. Endosse cette responsabilité d'une certaine manière.
Aujourd'hui, à Imkansia, vous avez accompagné le corps des soldats français qui revenaient d'Afghanistan, des 4 soldats qui viennent d'être tués en cette fin du mois de janvier. Y a-t-il une éthique des forces armées aussi ?
Là, on est au cœur de la responsabilité personnelle. Tous nos soldats portent sur eux un guide d'éthique, un code du soldat, qu'ils combattent pour les valeurs qui sont celles de la France, liberté, égalité, fraternité, qui portent la notion de respect. Il respecte aussi son ennemi. Le soldat français est un soldat qui respecte aussi son ennemi, qui ne veut pas d'ailleurs tuer l'ennemi, qui a vocation à apaiser les choses, qui a vocation à défendre ce que la France a toujours défendu. Et nos soldats, aujourd'hui, dans la société, portent au plus haut la notion d'engagement. Vous savez, de moins en moins, on aime s'engager dans la vie. Regardez, on fait des publicités en ce moment pour les téléphones portables, on vous dit, c'est bien, chez nous, vous n'êtes pas obligé de vous engager. Et alors ? La vie, justement, c'est l'engagement. Et nos militaires, où qu'ils soient, quelle que soit leur armée, s'engagent pour la société, pour la nation. Et donc, c'était très émouvant, là, sur le pont Alexandre III, ces 4 corbillards qui allaient vers Notre-Dame des Invalides pour une cérémonie privée. On a respecté leurs vœux de cérémonie privée, mais il y a eu une sorte d'hommage de la République, du peuple de Paris, qui s'est mis des deux côtés de ce pont et qui leur a dit merci et bravo. Parce que ils ont, les militaires, ceux qui sont morts et les autres, sans oublier leurs camarades blessés, ont la notion du sacrifice. C'est une notion qui touche aussi à l'éthique de la responsabilité.
C'est une notion un peu démodée actuellement, non ?
Oui, mais qui aurait besoin d'être revitalisée, d'être réenchantée. Parce que je pense qu'en ces temps d'élections, en ces temps de choix, eh bien, il faut être capable de montrer qu'une société ne peut pas se construire avec une seule partie qui va s'engager. Il faut que l'ensemble de la société s'engage. Le Maxime des Pères dit « s'il n'y a pas d'homme, alors toi, sois un homme ». À chacun d'entre nous, ce texte s'adresse. Toi, soit un homme, soit une femme, digne de cela. Les militaires nous donnent cette idée de l'engagement. Et finalement, nos militaires français ont une spécificité dans le monde. C'est qu'ils sont toujours au contact des populations, avec les risques que ça comporte. Parce qu'ils sont dans un respect de l'autre, un vrai respect de l'autre, dans la connaissance de l'autre. Et finalement, ça repose la question, et vous permettrez d'avoir une vision plus globale sur l'éthique, que j'essaie de développer dans ce livre. Finalement, qu'est-ce que c'est l'éthique ? C'est quelque chose qui force à ralentir le rythme légèrement, à réfléchir sur ce qu'on fait. On peut pas agir en se disant « je réfléchirai après ». Ça n'existe pas. Alors bien sûr, dès que vous parlez d'éthique dans quelque milieu que ce soit, on vous dit « mais attends, tu ralentis le processus ». Vous croyez que des chercheurs aiment qu'on leur dise « non, ce que vous faites, c'est dangereux, c'est risqué ». Mais ils disent « mais tous les copains ailleurs dans le bout du monde, ils le font, pourquoi pas nous ? On prend du retard ». Et les journalistes, vous-même, quand vous avez une information, vous avez envie de la donner sur les ondes tout de suite. Mais en réalité, on vous dit « attendez ». Coupons les sources, vérifions si c'est bien cela, est-ce qu'on a bien compris, est-ce que c'est bien ça. Quand on est sûr, on publiera. Mais le directeur de la publication dit « mais moi je veux du scoop, je veux vendre ». Même chose pour les affaires, même chose pour la vie, même chose pour la vie privée, même chose pour tout. Alors moi je dis, c'est vrai que parler d'éthique, c'est ralentir l'efficacité immédiate. Mais, comme vous instillez de la confiance, alors vous avez à la fin plus d'efficacité. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, parler d'éthique et instiller de l'éthique dans un système quel qu'il soit, c'est que vous instillez de la confiance et à ce moment-là, ça marche mieux. Parce que tout le monde part dans le même sens, part dans le même but, tout le monde porte le projet et finalement ça marche, il y a plus de confiance. Et finalement c'est ça la grande réflexion, la conclusion de mon petit opuscule, mon petit livre. J'ai mis beaucoup de temps, ne croyez pas que 71 pages, vous dites là, ne croyez pas que ce soit facile, j'ai mis beaucoup de temps parce que ce sont des notions qui touchent à l'essentiel, qui touchent aux fondamentaux de la vie. Et je pense qu'on aimerait une société parfaite. L'éthique, elle ne nous parle pas d'une société parfaite. L'éthique nous parle d'une société perfectible. Et c'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup. Au fond, on n'aura jamais fini de débattre des questions éthiques. Et c'est bien, c'est ce qu'il
c'est
faut.
Très bien. C'est toujours. Parce qu'il n'y a jamais une réponse définitive.
Voilà. Au fond, il faut toujours douter. Vous faites d'ailleurs appel dans votre livre au doute, selon Alain, c'est-à-dire de remettre en question tout le temps, les questions éthiques.
Bien sûr. Le doute, c'est la vie, finalement.
Merci à Haïm Korsia de nous avoir éclairés rapidement, parce que, évidemment, on pourrait passer une émission sur chacune de ces sphères que vous avez abordées dans votre petit ouvrage qui s'appelle Éthique et action publique, avec une préface de Bernard Debré, qui est l'un des fils de Michel Debré, qui était à l'Académie française. Mmh. Et c'est publié aux éditions ISMAP, ISMA 2P. Merci.
Au revoir.